Très heureux en effet de vous accueillir à la Grande Halle de la Villette à Paris, au cœur d'un festival qui célèbre le livre mot pour mot. C'est à la Villette à Paris où l'on vient écouter des auteurs, croiser des lecteurs, acheter des livres et venir assister à nos émissions. Deuxième année de mot pour mot, deuxième présence du Grand Atelier ici puisque France Inter accompagne l'événement. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints et bienvenue à vous tous où que vous soyez dans cette émission en direct et en public qui se promet de faire tourner les tables. Nous en appelons à un fantôme cet après-midi, celui d'une écrivaine qui fut la plus photographiée du XXe siècle. Elle vécut entourée de chats. Elle sut, à l'instar de Proust, témoigner de son enfance, décrire ses sensations, mettre en mots la nature et l'amour. Elle vécut librement, aima des hommes et des femmes, fut autant écrivain que reporter et chroniqueuse. Elle monta sur scène pour faire du mime. Elle ouvrit des salons de beauté. Elle devint présidente de l'Académie Goncourt et mourut à 81 ans, laissant une œuvre dont nous allons parler avec nos invités. Avez-vous lu Les Claudines, Le blé en herbe, La naissance du jour, Gigi? Alors, puisqu'on fait tourner les tables, eh bien, imaginons que Colette soit avec nous. Je lui demanderai, comment travaillez-vous?
Comment je travaille? Mais mon Dieu, comme je peux! Je me fais aider par du papier d'un bleu tendre, par une bonne écurie de stylographes et par une grosse paire de lunettes. Ma foi, je travaille exactement comme je peux et avec beaucoup de peine, je ne le dissimule pas. Ça n'est pas à mon âge que je vais trouver, au gré de mon désir, des sujets romanesques. Alors j'attends.
Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, critique littéraire, académicien français, spécialiste de Proust. Vous proposez régulièrement des séries estivales sur des écrivains sur France Inter. L'été dernier, vous avez raconté Colette et vos chroniques sont devenues un livre aux éditions Équateur France Inter. Un été avec Colette, vous serez notre fil rouge pendant 2 heures. Deux romancières nous diront leur lien à Colette. Je salue Chantal Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Reçue dans quelques jours à l'Académie française. Le trac monte.
Pas l'air du tout. Ça va très bien.
Pas l'air traqueur du tout. Auteur d'essais et de romans comme Sade, Les adieux à la reine, De sable et de neige ou le récent Journal de nage. Avec nous également Geneviève Brézac, que je salue. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Qui publie à l'Olivier des romans comme Week-end de chasse à la mer ou Les enchanteurs et qui est aussi une auteure de livres de jeunesse. Après 16 heures, la psychanalyste Julia Kristeva nous rejoindra. Elle a écrit sur Colette et nous irons dans Lyon, en Bourgogne, dans la maison natale de l'auteur des Claudines, à Saint-Sauveur-en-Puisé, où sa maison restaurée se visite depuis quelques années grâce aux efforts d'un admirateur, Frédéric Magé. Bernard Lavillier, pour commencer ce grand atelier, toi et moi, c'est le titre.
On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore. Un mot de plus, un mot de trop, et deux amants sur le carreau. Une année impossible que cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. Il y a ceux qui rêvaient de dictature militaire, ces connards amnésiques ont foutu en colère. Juste toi et moi. Toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore. Plus de 20 ans et des alarmes, t'as toujours pas baissé les armes. Un vent solaire qui déchire le ciel noir, dans la foule anonyme arrive en flux tendu. Les gueules de prophètes, jusqu'alors inconnues, brille ton cerveau, sont tes pires cauchemars. Juste juste toi et moi. Toi et moi, c'est pas toujours facile. Toi et moi, toujours indivisible. Toi et moi, si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore. Une année impossible, cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi. On se caresse, on se dévore, on s'aime trop, on s'aime encore.
Antoine Compagnon, Chantal Thomas, Geneviève Brisac sont avec nous pour évoquer Colette, le fameux fantôme de Colette, au festival Mot pour Mot à la Villette à Paris en direct. Vous êtes les bienvenus. Je vois d'ailleurs que la salle se remplit de plus en plus et ça nous fait très plaisir. Je voudrais vous faire entendre d'abord l'influence de Colette sur une lectrice. Elle s'appelle Françoise Giraudet. C'est une professeure des écoles à la retraite. Elle habite Rennes, se passionne pour Colette depuis l'adolescence, depuis l'école. Elle écrit d'ailleurs des livres sur elle et sur les femmes qu'a connues Colette. Elle collectionne souvent ce qui lui a appartenu. Françoise Giraudet.
Ma passion, c'est Colette, oui, qui m'habite depuis bien, bien longtemps.
Il paraît que ça a commencé en troisième avec un professeur de français.
Exactement. J'étais élève au collège de Fontainebleau, parce que je suis native de Fontainebleau. Et vers 1965, notre professeure de français, Madame Petit, que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, elle est arrivée dans la classe en portant un carton plein de livres de poche. Et elle en a garni les rayons d'une petite bibliothèque. Et là, je crois que j'ai tout lu ou presque, et l'œuvre de Colette ne m'a jamais quittée.
Vous vous souvenez de l'effet que provoque l'écriture, le propos de Colette sur vous ?
Bon, moi, la littérature m'a toujours aidée à vivre et m'a accompagnée, notamment dans les moments difficiles. Et j'ouvrais un livre à n'importe quelle page et j'y trouvais matière à réconfort. Par exemple, Julie de Kernayan. J'aime beaucoup, beaucoup cet ouvrage qui est un beau portrait de femme qui est fière, indépendante et qui s'écarte des compromissions et qui part vers sa jument à la fin de l'ouvrage où elle va retrouver sa Normandie et sa jument pour justement y trouver la paix, le réconfort, l'indépendance, loin des compromissions parisiennes, et c'est très porteur pour moi.
Elle boutonna sa jaquette, chaussa à fond l'entrejambe de sa culotte, avec le geste choquant et masculin des danseuses classiques qui s'assurent dans leur maillot. Elle se sentait à l'aise, bottée un peu large, gantée de même et coiffée pour défier le vent.
Et puis il y a d'autres ouvrages comme Paris de ma fenêtre ou bien Les heures longues où Colette, pendant les années de guerre, s'est adressée aux femmes pour qu'elles ne s'appesantissent pas sur leur quotidien difficile et qu'elle leur a donné des conseils pour supporter le quotidien. Elle écrivait dans le journal Le Matin et toutes ces chroniques là étaient attendues justement parce que c'était pragmatique, c'était du vécu. Et les gens l'ont ressenti.
Au fond, c'est une amie, c'est un guide.
C'est un guide, c'est une amie, oui. Oui, tout à fait.
Alors, vous avez collectionné beaucoup de choses de Colette, des dessins, des lettres, et même un manuscrit, paraît-il.
Oui, j'ai un manuscrit. J'ai le manuscrit de la couseuse, qui fait partie de la maison de Claudine. Voilà, j'en ferai don à la Bibliothèque nationale. Les lettres que j'ai aussi, c'est prévu que ce soit gardé par la Bibliothèque nationale Richelieu. J'ai fait aussi un ouvrage sur les dédicaces. Colette dédicaçait ses livres et d'ailleurs ses correspondants les recherchaient, on se précipitait pour avoir une dédicace de Colette. Colette a eu l'art de la dédicace, un art de formule brève avec beaucoup d'humour et beaucoup de virtuosité.
Vous en avez une à nous citer ?
Oui, je vais rechercher dans mon livre là. À ma fille, prends chérie ce bouquet pour ta ceinture. Il est moins frais que toi. C'est beau.
Mais oui, c'est beau.
Ça, c'était pour un herbier. Vous savez, elle a fait un livre avec des textes sur des fleurs. C'était un éditeur de Genève qui lui envoyait des bouquets en contrepartie d'un texte sur les fleurs.
Qu'est-ce que vous conseillez comme lecture ?
Alors moi j'aime bien, je vous dis, Julie de Carnayan, les chroniques de Paris de ma fenêtre, l'envers du musical, c'est très beau, la vagabonde aussi où Colette exprime un petit peu son indépendance, sa liberté de femme. Il faut prendre, à la limite, il faut prendre un ouvrage de Colette un petit peu sur un coup de cœur et puis voilà, l'ouvrir, le refermer si ça correspond pas, en prendre un autre, c'est ça la lecture aussi, voilà. Mais quand on prend La Maison de Claudine ou bien Le Fanal Bleu, les ouvrages de la fin de la vie, c'est vraiment très beau.
Mais voilà, elle aime tout finalement, Chantal Thomas, notre amie et auditrice Françoise. Vous comprenez cette manière qu'elle a de dire c'est une matière à réconfort, Colette, quand elle écrit. On a l'impression qu'elle écrit pour elle d'ailleurs, pour cette Françoise.
Oui, je comprends très bien. Il y a une dans l'art d'écrire de Colette, il y a une sorte de génie qui atteint immédiatement au plus intime.
Vous la rencontrez quand, vous ? Est-ce que c'est dans votre jeunesse à Arcachon, Chantal Thomas ?
Oui, je l'ai rencontrée à l'âge de 15 ans. Et le bonheur de la rencontrer était que justement, j'ai trouvé ce livre de poche adorable où on voit Claudine dessinée et derrière un tableau noir, et j'y ai vu comme une sorte de miroir de ma vie d'adolescente.
Qu'est-ce qui correspondait à votre vie dans Claudine ?
Alors,
parce que Claudine était espiègle.
Presque tout. Ce qui correspondait vraiment à ma vie, c'était que pour la première fois, pour la première fois, je lisais un livre dont l'héroïne avait exactement mon âge, était une jeune fille et était dans le trouble d'émotions complexes et qui la débordait. Et c'est aussi un livre qui est entièrement habité de sensations. Et c'était pour moi une révélation de trouver les mots qui traduisaient quelque chose d'obscur en moi.
C'était troublant alors.
En particulier. Oui, oui, absolument. J'étais à la fois troublée et je me suis sentie libérée de cette part d'impossibilité à dire ce qui m'arrivait.
Elle vous offrait des possibles.
Absolument.
Geneviève Brisac, même expérience, même découverte de peut-être Claudine à l'école ou d'un autre livre à peu près au même âge que Chantal Thomas ?
Non, c'est pas exactement ça mon expérience. Mon expérience, c'est que à l'école, on fait des dictées. Et d'ailleurs, comme le raconte Antoine Compagnon...
Ah oui, il y avait Hugo et il y avait Colette.
Oh, il y avait surtout... Ça, c'était... Bon, justement, il y avait des gens beaucoup plus ennuyeux. Donc, il y avait surtout Henri Bosco. Je vouais une haine extrêmement personnelle à
Pourquoi
Henri Bosco. Je peux pas dire, parce que moi, j'adorais les livres. Et là, c'était la mort. C'était pas les livres, c'était un truc tout mort. Donc, ça me faisait de la peine. Et ça devait être en CM1, je pense, un truc comme ça. Et un jour, soudain, on a eu une dictée de Colette. C'était Toby Chien et Kiki la Doucette. Et je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Et bizarrement, exactement à cet instant-là, la littérature... elle aimait pas beaucoup ce mot, hein, d'ailleurs. Enfin, la création, l'imagination est sortie des pages du livre de lecture qui, je crois, s'appelait Au point du jour ou un truc comme ça. Et j'ai compris qu'en fait, on pouvait raconter des histoires avec des chiens et des chats qui parlent, ce qui me convenait extrêmement bien. Des chiens et des chats qui observent les deux pattes, comme elle disait, et ça me convenait génialement, et qui sont assez moqueurs. C'est-à-dire qu'il y a, et on entend très bien ça quand on a une petite fille moqueuse, on entend très bien cette insolence et cette moquerie qui ne quitte jamais Colette, et qui a beaucoup, beaucoup de conséquences, en fait, dans son œuvre. Cette quand on la comparera à Proust tout à l'heure, elle a quelque chose de très spécial, Colette, c'est qu'elle, dès toute jeune, et à cause justement des Claudines, tout ça, elle sait faire ce pas de côté, elle a cet art de la distanciation qui est en même temps l'art de la sensation. Et les deux en même temps, c'est formidable.
Lui aussi a fait des dictées. Colette, c'est ce que vous indiquez, Antoine Compagnon, dans Un été avec Colette, des dictées Hugo et des dictées Colette. C'était plus facile, Colette, que Hugo, quand on était un écolier?
Hugo, c'était surtout le... On faisait beaucoup de récitations à notre génération. C'est-à-dire, pour moi, c'était la fin des années 50 à l'école primaire. Et en effet, je me rappelle très bien les dictées de Colette. J'en cite quelques-unes dans le livre.
À partir de quel livre on vous faisait des dictées?
Moi, je me souviens de La Maison de Claudine. Donc, je cite le presbytère. On apprenait à écrire presbytère avec un Y. Et on apprenait qu'un presbytère, ce n'était pas un petit escargot comme... Colette le pensait.
Ah oui, c'est ce qu'elle dit, elle a découvert ce mot. Hein.
Voilà, donc oui, j'ai appris l'orthographe dans Colette. Hugo, c'était les récitations. On apprenait beaucoup, beaucoup de vers de Hugo. Bon, j'étais dans une bonne école primaire, et donc je dois l'orthographe à Colette. J'espère que, parlant de Colette, cela va inciter beaucoup de maîtres du primaire, professeurs des écoles, à faire de nouveau des dictées de Colette.
Ah, je ne sais pas si on fait toujours des dictées de Colette, vous non plus, mesdames, vous ne savez pas. Vous avez souvent parlé d'hommes écrivains sur France Inter, pendant plusieurs années, Antoine Compagnon, et puis le dernier été, vous nous avez fait la surprise de parler d'une femme qui était Colette. Pourquoi Colette? Parce que je crois savoir que vous avez une passion pour Duras.
Écoutez, j'aime beaucoup...
Elle serait très vexée, Duras, de ne pas être la première.
Écoutez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'étais passé à la matinale de France Inter il y a juste 2 ans, lors de la sortie en librairie du Pascal, le volume précédent que j'avais fait dans la série, avec Nicolas Demorand et Léa Salamé. Et ils ont donné la parole à une auditrice au téléphone qui a protesté en disant « On en est à 8 hommes, il n'y a jamais eu de femme. »
C'était Geneviève Brisac, l'auditrice.
Je ne sais pas.
Je reconnais.
Ça pourrait être vous. Hein.
Je pense qu'ils avaient fait le piège. Hein. Et en plus, elle a dit « Ça a été fait par des hommes. C'est 8 hommes faits par des hommes, ça suffit. » Et j'ai dit « Écoutez, moi, je veux bien faire Colette. » Ou Marguerite Duras. Hein, j'ai dit les deux parce que c'est vrai que ce sont des auteurs que j'aime beaucoup. On parlera tout à l'heure avec Julia Kristeva. Julia Kristeva qui a été ma directrice de thèse.
Aha.
Et quand je suis allé la voir, je crois que il y a longtemps, je n'ose pas dire il y a combien de temps, je lui ai proposé un sujet de thèse sur Marguerite Duras. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait un livre sur la citation, mon premier livre, mais Colette et Duras, et j'aurais pu faire Duras pour ses émissions. Et
vous ferez Duras un jour?
Peut-être. À la sortie du studio, Laurence Bloch m'a dit « Écoutez, faisons Colette ».
Voilà.
Et du coup, j'ai passé l'été, il y a 2 ans, à lire les 4 volumes de la Pléiade, me replonger dans Colette, avec beaucoup de plaisir.
Mais c'est moins austère que Pascal, peut-être, de passer des mois
Pascal,
avec Colette.
Non, Pascal a été beaucoup plus difficile à faire. C'est le quatrième que je fais. Montaigne, Baudelaire, Pascal, Colette. Colette a été... Bon, Montaigne, c'était très facile, parce que Montaigne, on est dedans, c'est la liberté, à Sauze et à Gambade. Mais Colette a été le plus jubilatoire à faire. Parce que, bon, on l'a dit, il y a beaucoup de bonheur, il y a une recherche du bonheur, et on peut entrer dans l'œuvre de Colette et dans la vie de Colette par tellement de voix que j'aurais pu faire beaucoup plus de 40 émissions.
On va continuer à évoquer, bien sûr, Colette, la vie et l'œuvre, mais je voudrais qu'on écoute de la musique. Elle en écoutait, elle était elle-même un petit peu pianiste.
Hein, Colette était très musicienne.
Elle était très musicienne, elle avait des amis musiciens.
Elle venait d'une famille de musiciens, elle jouait du piano, on dit qu'elle jouait bien du piano, et elle a été amie de Fauré, de Debussy,
de Poulenc,
L'enfant et les sortilèges qui est fait...
Elle a écrit le livret Ravel, la mise en musique.
C'est une grande œuvre.
Eh bien, on va écouter Debussy. La suite Bergamasque, c'est un classique et c'est très bien joué par Jean-Yves Thibaudet.
Thank you.
Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette, née en Bourgogne à Saint-Sauveur-en-Puisaye en janvier 1873, d'une mère qui aime la nature, qui cultive ses jardins avec amour, avec un respect du vivant qui finalement est très contemporain, très avant-gardiste, et d'un père capitaine qui a perdu une jambe lors d'un combat et qui est devenu percepteur. C'est une fille de bourgeois, Antoine Compagnon, qui, me semble-t-il, se sent paysanne.
Elle vient, on l'a dit, d'une famille très cultivée. Sa mère avait été élevée en Belgique auprès de deux frères beaucoup plus âgés qui étaient de grands journalistes belges. Et c'était dans le milieu du Second Empire, donc Bruxelles était le lieu de l'exil de beaucoup d'intellectuels. On les appelait pas encore des intellectuels, enfin des écrivains français. Et donc elle a été élevée dans un milieu très libre aussi. Elle s'est toujours définie comme athée, cette mère. Et quand on lit les lettres de Sido à Colette, on comprend tout ce que Colette lui doit. Elle lui doit pour beaucoup de son indépendance, de sa volonté d'indépendance. Bon, Sido disait que elle a eu deux maris, mais elle aurait voulu vivre librement et indépendante.
Ce que fera Colette.
Et c'est ce que fera Colette. Donc il y a, bon, elle a été bien élevée. Elle a été dans une école primaire des débuts de la Troisième République. Alors, elle s'est moquée de cette école, donc Claudine à l'école. Oui, elle en a fait la satire.
Elle n'est pas tendre avec la laïque.
Elle n'est pas tendre avec cette école, mais elle doit beaucoup à cette école. Et évidemment, l'institutrice qu'elle a eue et qui l'avait formée a été assez marie de cette satire.
Et Cocteau disait de Colette, c'est une paysanne et une enfant.
Alors, Cocteau est toujours un peu méchant avec Colette. Il se moque un peu d'elle.
C'est bizarre.
Comment ?
Non, je disais, c'est
Geneviève Brézac dit c'est étonnant, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs réflexions de Cocteau qui semblent aimables, mais qui ne le sont pas.
Il est un peu perfide, mais il est perfide de la même façon avec Proust. Il y avait
c'est pas méchant, une paysanne et une enfant. Non, elle aimait la nature, elle aimait son jardin, elle aimait ses animaux. Il y a ça chez elle.
Mais par exemple, Cocteau dit qu'elle était cruelle avec les animaux.
Oui.
Mais il n'a pas compris, parce que lui, il est parisien, et il a une certaine sensiblerie avec les animaux que Colette n'a pas du tout.
C'est-à-dire qu'un jour, on lui amène un petit oiseau blessé, à Colette, elle le regarde, elle va dans le jardin, cric, elle lui tord le cou, parce qu'elle savait qu'on ne pouvait rien faire pour lui.
Voilà, et alors il y a aussi Léoto qui dit que lorsque ses chats meurent, elle les jette n'importe où, et alors qu'elle a un grand attachement pour ses animaux, mais
elle a été élevée à la campagne.
S'ils sont morts, c'est fini.
Alors elle va garder Colette et cultiver ce fameux accent bourguignon très prononcé, en roulant les R, comme l'indiquait l'écrivain de l'Académie Goncourt, Alexandre Arnoux.
J'aurai toujours dans l'oreille sa pointe savoureuse d'accent bourguignon, sa manière inimitable de prononcer les R, de les rouler avec je ne sais quoi de rauque, avec je ne sais quoi de doux. Personne n'a jamais sans doute prononcé un nom de plante d'une façon si évocatrice. On en respirait immédiatement l'odeur de feuilles vertes, de sève et de pollen.
Geneviève Brézac, il est beau cet extrait parce qu'il dit déjà beaucoup de choses de l'écriture de Colette. Sa manière de parler des plantes si évocatrice, on en respirait l'odeur. Et c'est vrai qu'on respire l'odeur en ouvrant un livre de Colette, des jardins, des plantes.
Ça s'appelle écrire.
S'appelle écrire, mais...
Mais je voulais justement revenir sur ce don d'écrire.
Oui, tout le monde n'arrive pas à cette perfection-là.
Ça, c'est certain. Mais cette oreille musicale, c'est-à-dire que la phrase... Enfin, les choses et les mots, comme on dit, sont au contact. Elle sait faire ça de manière innée et ensuite, évidemment, travailler. Mais c'est pas là-dessus que je voulais parler.
Oui.
Parce que j'écoutais ce que disait Antoine Compagnon et les méchancetés de Cocteau et Léoto. Toutes les femmes, toutes les écrivaines, pour revenir sur un de mes chevaux de bataille favoris, ont été ont fait l'objet, je vois pas d'exemple contraire, d'attaques soi-disant, enfin en général pas bienveillantes du tout, jalouses, aigres, perfides. Et Colette a pourtant tout fait pour l'éviter. Elle naît quand même en 1873, c'est-à-dire bien, enfin elle est très en avance, Virginia Woolf naît en 82, enfin, on pourrait prendre plein d'exemples comme ça, sur la liberté, la liberté physique, la liberté intellectuelle. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, l'admirait beaucoup pour cette liberté, même si elle écrivait vraiment pas du tout de la même manière. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, elle avait compris cette phrase que j'adore de Madame de Staël. Et vous savez, Madame de Staël disait « La gloire, virgule, pour une femme, virgule, c'est le deuil éclatant du bonheur. » Donc je pense que enfin je pense, c'est une supposition bien sûr, je pense que Colette, avec son accent bourguignon, avec la question de l'enfance, avec les plantes, la nature, les chats, avec les maris, avec les Claudines, avec tout ce qu'elle a su inventer, a réussi à se, avec les choses un peu enfantines, patati patata, a réussi à se faufiler pour ne pas faire peur à tous ces Claudel, Valérie et autres grandes figures littéraires, ses contemporains. Et ainsi s'est-elle faufilée. Mais forcément, comme toujours pour les femmes, elle a quand même payé. Et on a dit oui, elle était quand même très apolitique. Tout à fait vrai. Elle s'occupait pas de ça. Et donc, ça l'a rendue, à un moment donné, moins lisible, moins recevable qu'à d'autres époques. Mais aujourd'hui, on peut voir sa force et la beauté de ce qu'elle écrit.
Chantal Thomas, pour revenir à ses sensations, à sa capacité de rendre compte de ce qu'elle ressent et de ce qui vous a ému d'ailleurs dès vos premières lectures de Colette, racontez-nous cette manière qu'elle a d'animer nos sensations à partir des siennes.
Oui, c'est un peu en continuité avec ce que vient de dire Geneviève Brisac sur son rapport au féminisme. C'est-à-dire, je pense que, et c'est ce qui rend si beau tous ses livres, elle suit au plus près ce que lui inspire son rapport immédiat avec le monde et l'âge. Et entre Claudine à l'école et l'étoile Vespère, c'est comme un journal aussi. C'est le journal d'une femme qui regarde le monde, qui s'investit énormément parce qu'il y a une grande activité de collègue journaliste. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'adhère jamais à une cause. Et c'est pour répondre à cette... Elle est très différente en ce sens de Simone de Beauvoir. Elle ne se sent pas comme un parti possible. Ce qui, je crois, au contraire, l'anime, c'est d'être toujours... D'ailleurs, chacun de ces mots est comme une révélation. Ce qui rend si extraordinaire Colette, c'est que on s'arrête à chaque mot. On n'est pris jamais par le lisse d'un discours. Et il me semble qu'elle a vécu sa vie comme ça. Et elle a vécu aussi l'émergence des désirs, et des désirs complexes, et d'un fond continu d'amour de la femme et des femmes, comme son histoire à elle.
Geneviève Brisac, vous voulez compléter ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Chantal Thomas. Et je pense que ce qu'elle dit, j'ai du mal à écrire, mais on aimerait que beaucoup de gens aient du mal à écrire comme Colette. Parce que moi, ils chercheraient vraiment le mot pour une sensation qui n'a pas de mots. Ça, elle le fait tout le temps très très bien. Et journaliste, elle s'est beaucoup revendiquée journaliste, parce qu'il est vrai que le journalisme apprend aussi ce qu'elle a de très beau, c'est une vitesse. C'est-à-dire qu'elle écrit peut-être lentement, mais elle capte vite.
Oui, puis ça faisait du bien à sa curiosité, parce qu'elle était, de par sa mère Sido, extrêmement curieuse.
Elle met toujours en avant le fait qu'elle travaille comme une prolétaire pour gagner de l'argent. Oui. Elle gagne sa vie.
C'est ça. Il faut que je travaille, il faut que je gagne ma vie. Répéter à longueur d'année, Colette, aux personnes qui lui parlaient de ça. Dans sa vie, effectivement, il y a cette Sido, cette mère, à la forte personnalité, qui a plusieurs enfants, dont un fils et une fille, Colette, avec son second mari. Elle est folle amoureuse de sa petite fille, Colette, Antoine Compagnon. Elle lui transmet sa passion de la nature, on l'a dit, du jardin, des animaux, et surtout de l'observation. Écoutez Colette lire une lettre de sa mère, qu'il appelait de divers petits noms affectueux comme Minou Chéri, en ayant certainement retravaillé un petit peu le style des lettres de sa mère.
30 décembre 1911. Minou Chéri, j'ai reçu ton article. Jeanne me l'avait apporté hier. Il m'a beaucoup plu. Je vois, cher, que la vieille maison et son jardin te hantent. Cela me plaît et aussi m'attriste. Je vois toujours ta gracieuse petite forme s'y promener, rêvant à mille choses, la chatte te suivant docilement. Que de souvenirs surgissent. Je te vois, quand je t'évoque dans ce temps-là, plus souvent dans une robe bleu pâle qui te faisait si jolie. Oui, tu étais mon soleil d'or. Je te disais aussi que lorsque tu entrais dans la chambre où je me tenais, elle devenait plus claire. Et tes beaux cheveux d'or qui tombaient jusqu'à terre. 1m58. J'ai toujours pensé que c'était Willy qui t'avait suggéré de les couper par jalousie. Tu peux bien me l'avouer à présent, va. Mais j'ai eu un gros chagrin que tu aies anéanti mon chef-d'œuvre de 20 années.
On aura l'occasion de parler de la relation mère-fille avec la psychanalyste Julia Kristeva, parce qu'il y aurait au moins 2 jours d'émission à faire sur la relation entre Sido et Colette, mère merveilleuse, parce qu'elle lui apprend beaucoup de choses. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Antoine Compagnon, parce qu'elle était en avance sur son temps, cette femme, mais mère étouffante. Il faut réussir à se libérer de Sido, et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se coupe les cheveux et qu'elle va avoir une coupe à la garçonne, disait-on à l'époque.
C'était une famille qu'on appellerait aujourd'hui dysfonctionnelle.
Oui.
La famille Colette, puisque c'était le patronyme
nom de famille.
Du capitaine. Le capitaine qui était amputé très jeune et qui... Colette se rendra compte seulement très très tard de la souffrance de son père, de la mélancolie de son père, qu'elle compare à un oiseau claudiquant dans la maison. Cette mère très autoritaire, qui elle ne s'est jamais séparée de son fils aîné, qui était médecin dans un village voisin, qui a fait ses études à Paris, et il est médecin parce que sa mère a voulu qu'il fasse des études de médecine, et il a vécu toujours, comment sa femme a pu supporter cette mère qui était là, toujours.
Qui criait toujours, où sont les enfants? Où sont les enfants?
Et donc, et puis les deux, le dernier fils, Léo, bon, c'est un saut de ruisseau, c'est une sorte de raté, enfin, en tout cas pour sa mère, c'est un raté, et pour Colette aussi. Et Colette, oui, vous l'avez dit, elle a épousé cet homme qui avait 15 ans de plus qu'elle.
Le fameux Willy,
qui était un coureur de femmes, qui l'a trompé le premier jour, mais elle l'a épousé pour se libérer de sa mère.
Elle est partie à 17 ans, 16, 17 ans?
20 ans. 20 ans.
À 20 ans, un petit peu.
Elle avait 20 ans, il en avait 35, mais c'était le moyen de trouver son indépendance. Alors elle a beaucoup souffert dans ce mariage, sans doute, mais on a dit qu'elle avait appris à écrire de sa mère, mais aussi de Willy. C'est Willy qui lui a fait enlever les adjectifs et les adverbes, donc le style de Colette. Sa mère lui rappelle souvent ce qu'elle doit à Willy.
Et elle a raison.
Alors qu'elle est dans un ressentiment profond à l'égard de cet homme.
Bien sûr, on parlera de cette relation, là aussi, peut-être un peu dysfonctionnelle, pour reprendre un terme contemporain et analytique. Geneviève Brézac, on parlera ensuite de la relation entre Colette et Proust. C'est vous qui l'avez abordé tout à l'heure, et c'est passionnant de voir les correspondances. Je vous en prie.
En vous écoutant, je me souvenais d'un détail que j'ai lu, je sais plus où d'ailleurs, qui était qu'il n'y a pas que la mère de Colette qui l'a incité à écrire, il y a son père aussi.
Oui, on me semble me rappeler que
Son père avait des...
C'était un écrivain un raté, son père.
Il aurait aimé écrire, oui.
Et on dit qu'il avait un grand nombre de cahiers, de manuscrits blancs. C'est
mais
tellement émouvant en même temps.
On ne les a pas vus.
Oui, mais j'aime bien l'idée quand même d'écrire.
C'est merveilleux.
Parce que son père n'a pas écrit, que sa mère, etc. Puis je voulais, vous disiez Colette, vous avez remarqué que quand vous dites Colette, on ne sait jamais de qui vous parlez, en fait. Parce que alors c'est le capitaine Colette, ou c'est elle Colette, ou c'est Sido Colette, ou c'est sa fille Colette. Donc cette circulation du patrimoine, en l'occurrence, du nom.
Et elle appellera sa fille Colette.
Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est quand même, là, dans le genre, la dysfonctionnalité est aussi une voie de liberté, c'est vraiment intéressant.
Proust et Colette, ils s'appréciaient, ils se sont un petit peu observés au départ, et Proust lui a écrit, par exemple, Mitsou, votre roman Mitsou est absolument formidable, et elle avait beaucoup de respect pour lui. Vous, spécialiste de Proust, Antoine Compagnon, est-ce que vous les comparez? Est-ce que le rapport à l'enfance, le besoin de se souvenir, l'utilisation de la première personne, l'importance de la mémoire, de la métaphore dans leur œuvre est comparable, ou on se trompe en disant ça?
Non, enfin, il y a beaucoup de points communs entre Proust et Colette. D'ailleurs, c'est pourquoi je les aime tous les deux. Ils sont contemporains. Il est né en 1871, elle 2 ans plus tard. Ils sont connus quand ils avaient 20 ans. Quand elle arrive à Paris en 1893, elle rencontre tout de suite Proust dans les salons. Elle ne l'aime pas parce que c'est un rentier, snob, mondain. Mais quand elle lit Du côté de chez Swann en 1914, elle est immédiatement conquise par Combray. Et elle a beaucoup compris de Proust. Quand elle parlera ensuite de Saint-Sauveur dans la maison de Sido Dans la maison de Claudine ou dans Sido, on voit comment elle a vu ce que Proust pouvait faire de la sensation pour évoquer son enfance et sa maison et son village et sa famille. Puis il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a Sodome et Gomorre. Elle dit que Proust a compris Sodome, mais qu'il n'a rien compris à Gomorre. Et c'est ça qui l'incite à écrire Le pur et l'impur. Les deux grands livres sur... la sexualité non normée, non cis, comme on dirait aujourd'hui, c'est Proust et Le pur et l'impur de Colette. Colette a parlé, aujourd'hui, on parle beaucoup des transgenres, regardons Colette, regardons ce qu'elle dit dans Le pur et l'impur.
Un livre très important de Colette.
Livre très important, sur la sexualité, très ambitieux.
Sur la sienne,
c'est
sur ses sexualités.
C'est un essai, c'est un livre très ambitieux. Elle considérait que c'était son livre, le plus fort, hein, parce qu'elle touchait à des questions. Comme Proust considérait que Sodome et Gomorre, c'était pour lui essentiel.
Moi, j'ai un petit faible pour La naissance du jour.
Alors, voilà, La naissance du jour.
Vous aussi,
moi
aussi. Le livre de 1928 où la narratrice est arrivée à un certain âge. Elle croit qu'il lui faut renoncer à l'amour jusqu'à ce qu'un nouvel amour survienne, bien sûr. Il y a toujours la renaissance possible chez elle. Hein.
Alors, moi, je crois que La naissance du jour, c'est le livre le plus ambitieux de Colette et c'est le livre le plus proustien. Puisqu'on a une narratrice qui s'appelle Colette, en voici une de plus.
Hein, pour troubler Geneviève Pressac.
On est dans une grande confusion et qui, en abîme dans le récit, il y a l'énamoration de deux jeunes gens. Donc s'il y a, c'est le modèle de ce qu'on a appelé à une date récente l'autofiction. C'est Colette et Proust. Et dans La naissance du jour, il y avait une épigraphe empruntée à Proust. Un personnage qui dit je et qui n'est pas toujours moi. Bon, voilà, c'est une épigraphe fausse, citée de Chic. Mais il y a effectivement beaucoup de points. Bon, pour moi, dans ces années 20, Proust et Colette sont les deux plus grands écrivains français.
Chantal Thomas, on a évoqué le lien Proust et Colette, on évoquait nos livres préférés, Le pur et l'impur, important bien sûr, et La naissance du jour. Vous êtes sensible à quel ouvrage, à quels ouvrages vous?
Moi, je voudrais continuer sur Proust et Colette.
Oui.
Je trouve que, en effet, c'est une sorte d'entrelacement très très profond. Et pour moi, la grande différence, c'est évidemment le rapport direct ou indirect à la souffrance. Et dans Colette, et en particulier dans La maison de Claudine, la force du non-dit, en particulier de la façon dont elle assiste à la passion qui lie son père et sa mère. C'est quelque chose qui irrigue tout le livre et qui lui donne un arrière-fond de ressentiment, presque, qu'on comprend a posteriori. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans Colette, qui sépare de Proust, je pense, c'est la passion du fragment.
Alors, c'est ça. Colette, c'est la forme brève. Dès que voilà. Colette veut... Colette a écrit... dans un format qui est toujours court.
Oui, parce qu'elle a été, Geneviève Brézac le rappelait, journaliste, chroniqueuse, et que c'était une forme qu'elle aimait beaucoup. Voilà.
Et elle a du mal à finir ses romans. Et elle le dit toujours.
Elle souffre quand elle écrit.
Elle dit, la fin de Chéri, c'est ma fin.
Oui.
Tellement elle a souffert pour terminer le roman. Et on lit ces romans qui ont l'air d'une aisance parfaite, Chéri, la fin de Chéri. Mais elle écrit toujours l'été, ses romans, puisque ce sont pour des feuilletons de l'automne. Et la fin de l'été est une torture pour elle.
Mais cette non-fin fait justement partie de notre plaisir quand on lit Colette, je trouve.
Oui, on va écouter Joseph Kessel qui a bien connu Colette et qui nous dit qu'effectivement l'écriture n'était pas, l'écriture de roman n'était pas son activité favorite. Alors faut-il croire Joseph Kessel?
Ce qui m'étonne le plus chez Colette, c'est que vraiment, pendant, je crois, toute sa vie, elle a détesté écrire. Nous n'aimons pas toujours écrire, nous savons bien que quelquefois c'est une corvée, mais enfin... nous n'avons pas la haine. Elle avait vraiment la haine de l'écriture. Elle l'a fait au début, disait-elle. Moi, je ne crois pas. Mais elle me l'a répété 100 fois. Si elle avait pu gagner sa vie autrement, elle l'aurait fait.
Ça vous plaît pas, ça, d'entendre ça, Antoine Compagnon? Ça vous perturbe un peu?
Écoutez, je crois qu'il y a d'abord un peu d'affectation. dans...
De la part de Kessel?
De la part de Colette. Lorsqu'elle dit qu'elle n'a jamais voulu être écrivain.
Parce qu'elle le répète souvent tout au long de sa vie.
Elle le répète.
Surtout à la fin de sa vie.
C'est un leitmotiv. Je n'ai pas voulu être écrivain, mais n'oublions pas que son père avait voulu être un écrivain et qu'il ne l'avait pas été. Puis d'autre part, ça rejoint ce que disait Geneviève Brisac. C'est, elle ne veut pas être comme ces hommes qui se prétendent écrivains, qui ont la vocation, qui mettent en avant leur vocation d'écrivain. Donc, elle dira d'un bout à l'autre qu'elle n'a pas de vocation à la littérature. Et chaque fois qu'elle emploie le mot littérature, c'est avec mépris. Ah, c'est littéraire. Dans les entretiens avec Parino,
oui,
chaque fois qu'elle lui cite une phrase qu'elle a écrite 20 ans ou 30 ans avant, il dit, ah, elle dit
ça, c'est de la littérature.
Et je pense qu'il y a la volonté de dire qu'elle est différente de tous ces hommes qui se prétendent écrivains.
Oui, dit Geneviève Brisac.
Mais parce que c'est vrai. Et parce que c'est vrai, c'est évident qu'il a fallu qu'elle se préserve, qu'elle préserve sa sauvagerie, qu'elle préserve sa liberté d'attaque que vous avez d'ailleurs énumérée. Le premier qu'il a défendu et protégé, elle en parle très très joliment d'ailleurs, c'est Catulle Mendès. Et Catulle Mendès, il lui dit vraiment, enfin vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez inventé des types littéraires, vous avez inventé et Claudine, vous avez inventé Gigi, et vous avez inventé Sido. Donc trois personnages féminins. Et je reprends ce que disait Chantal Thomas, qui était vraiment pour moi très importante des écritures de femmes justement, c'est que c'est une écriture qui est près du corps, si on peut dire, mais surtout qui épouse les époques. Et ça, je ne crois pas, je ne connais pas d'auteur masculin, et certainement pas Proust d'ailleurs, qui adhère comme ça à... qui est des livres de jeunesse, des livres de l'âge adulte et des livres de la vieillesse. Elle parle beaucoup de sa vieillesse.
Oui, comme notamment si dans le Fanal Bleu, le dernier.
Et quand elle parle de sa main, par exemple, elle dit ma vieille dent, c'est dans la naissance du jour, je crois. Elle parle plein de fois de sa main. Elle dit oui, je vois ma vieille petite main potelée. Enfin, il y a deux doigts qui sont bien et puis les trois autres sont moins bien. Il y a ce regard au scalpel qui est absolument incroyable. Alors, vous disiez qu'elle décrivait court pendant que Proust écrit long, mais là aussi on pourrait revenir sur le temps qui est imparti aux femmes pour écrire et le temps qui est imparti aux hommes. Entre-temps, elle a aussi des maris, des amants,
des maîtresses,
des enfants. Mais oui.
Et des jeunes hommes dont elle tombe amoureux et qui tombent amoureux de la Colette quinquagénaire. On évoquera ça tout à l'heure. On va écouter un nouveau titre de Dominica. Il sort un album Dominica en septembre. Le premier titre est magnifique, j'espère que vous l'apprécierez vous aussi sur France Inter, c'est Nouvelles du monde lointain.
Des nouvelles du monde lointain, où la vie fait des étincelles, on les voit bien. Même d'où on est dans la vallée, ça brille assez. Et pas de montagne assez haute pour l'empêcher. Ils ont l'air d'être heureux, ces gens, ils rient tout le temps. Leur visage semble n'être fait que pour l'écran. Ils causent de choses qu'on ne verra jamais ici. Ils ont des bouches qui parlent plus vite qu'il n'est permis. Comme s'il n'existait pas vraiment. Dehors, on n'entend pas un bruit. Tous les bruits sont pris par l'écran. Ou dire compte plus que ce. Nous reçu des nouvelles du monde lointain. Puis comme l'écran nous fatiguait, on l'a éteint. On est sorti sous le ciel noir, tout dégagé. Et on a laissé les étoiles tout effacer. Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain. Reçu des nouvelles du monde lointain.
Quand j'ai écrit les Claudines, ça devait être dans les 22 ans, oui. Dans quelles conditions? Non, pas de contraintes, mais tout de même, on me l'avait demandé. Et j'ai travaillé d'une manière inconfortable parce qu'il n'y avait pas de bureau dans la maison et un petit bout de table, une épaule de travers, une mauvaise chaise. Il m'avait fallu retrouver les cahiers, les mêmes que j'avais à l'école, parce que sans ça, je crois que je n'aurais jamais pu écrire. Alors j'ai eu les mêmes cahiers, puis j'ai écrit. Quand j'ai eu fini, j'ai remis ma copie. Monsieur Willim a pris connaissance des manuscrits et il a dit tout de suite, ben non, 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 je ne vois pas bien à quoi ça pourrait servir. Et on a laissé les cahiers là. J'ai trouvé ça très juste. Ah non, après, Monsieur Willim a rangé son bureau et puis il a retrouvé les cahiers, il en a repris un. Puis il a repris le second et puis le troisième, le quatrième, je ne sais plus du tout combien il y en avait pas mal. Et il a dit... Nom de Dieu, je ne suis qu'un con. Et puis il a mis son chapeau à bord plat et il est parti chez Ohlendorf. Et c'est comme ça que je suis devenu écrivain.
Voilà comment on est une grande écrivain, en l'occurrence parce que son mari, vous le disiez, Antoine Compagnon, beaucoup plus âgé qu'elle, est une sorte de patron d'atelier qui a d'autres d'ailleurs jeunes écrivains à qui il commande des livres, il leur donne éventuellement une idée, on les imagine tous sur leur petite table en train d'écrire, et puis il rajoute des choses, il a le sens de ce qui se vend, de ce qui marche, et c'est un commerçant finalement.
C'est de la littérature industrielle. Il fait travailler un atelier, alors il y en a, certains font les descriptions, l'autre font les dialogues, il leur donne un scénario, puis ensuite il raboute tout ça, il ajoute les calembours, et il ajoute un peu de sexe.
Et il lui demande quoi à Colette? Et d'ajouter alors, quoi à ces Claudines?
Alors Colette a collaboré à beaucoup donc des travaux de cet atelier, elle était liée avec ces jeunes écrivains. Bon, certains ensuite auront des destins remarquables, mais... comme elle le raconte là, Claudine à l'école, c'est elle toute seule. Donc c'est pas un travail de l'atelier, mais en effet, il lui a dit mettez un peu d'intrigue entre ces jeunes filles à l'école pour que ça plaise.
Et d'amour entre femmes.
Voilà, c'est ça. Mais ajoutez ça. Et puis les calembours. Mais bon, elle raconte ce que vous avez passé. C'est ce qu'elle raconte au début des années 50. Donc c'est très longtemps après. C'est sans doute un peu mythifié. Et puis on n'a pas malheureusement. On n'a pas les manuscrits de ces cahiers, donc on ne sait pas très bien si Willy a contribué à réécrire.
On ne sait pas où ils sont.
Ben, ils ont été détruits.
Oui.
Ils ont été détruits, ces cahiers de Claudine à l'école. Et probablement intentionnellement par Willy, pour qu'on ne sache pas quelle était la part de chacun. Mais, je le disais il y a un moment, la leçon de Willy, c'est tout de même une leçon de sobriété dans la langue. Et il est probable que Colette avait... un style qui était encore celui de la Troisième République et de l'école, comme on a appris à l'école, enfin comme on a appris, on n'est pas tout à fait de la même génération, mais tout de même un peu, puisqu'on est encore des enfants, nous de la Quatrième République, c'était la même école, et donc il fallait ensuite se débarrasser de ce style scolaire, et je pense que Willy a eu une influence sur elle.
Et elle-même aidera de jeunes écrivains à ne pas faire de littérature, comme on le disait tout à l'heure,
exemple,
notamment
Simenon.
À Simenon, il lui apporte 3, 4, 5 fois des contes, ouais. Parce qu'elle publie à l'époque, elle est directrice littéraire dans un journal, il lui apporte des contes, et au bout de la 9e fois, je crois, elle l'accepte en disant, ça y est, là, tu n'as pas fait de littérature.
Voilà, pas de littérature.
Et il lui dit, je lui dois mon style encore aujourd'hui. C'est beau.
À Colette. Ben oui, elle a appris à écrire à beaucoup de jeunes écrivains, comme elle avait appris à écrire tout de même auprès de Willy.
Alors, il nous reste seulement 2 minutes. Geneviève Brisac, dites ce que vous voulez.
Mon grain de sel, qui était que...
Vous n'aimez pas beaucoup Willy, vous?
Non. Hein. Non, non, j'aime pas tellement Willy.
Il l'a rendue très malheureuse. Elle a fait une dépression très, très importante.
Vous m'enlevez les mots de la bouche, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire. Je voulais dire que Colette a appris à des jeunes gens à écrire parce qu'elle était une immense écrivaine, que Willy a exploité Colette. Il lui a peut-être appris à ne plus être lyrique, etc. Mais lui, il était bien impuissant.
Il signait Willy au départ.
Enfin, lui, en tout cas, n'arrivait pas à écrire. Donc, c'est pas tout à fait la même position, quand même.
Willy a tout de même été un critique musical.
Ça n'empêche pas de ne pas savoir écrire.
Il était un critique musical. Non, il n'a pas su écrire de roman. Hein.
Non.
Mais il était un journaliste.
Non, mais j'en veux pas spécialement à Willy. Hein.
En tout cas, elle a été très amoureuse de lui.
Et vous savez, les femmes parfois se trompent un peu.
Vous théorisez sur les femmes et l'amour. Chantal Thomas.
Je pense que c'était une des forces de Colette de savoir extraire de toutes ses erreurs un talent et une aspiration perpétuelle.
C'est vrai. Oui.
Il faut ajouter juste avant de nous quitter qu'elle fera d'autres choses. Effectivement, elle va faire du mime au music hall. C'est quelque chose d'incroyable. Elle, là aussi, disait-elle, pour gagner ma vie.
Oui, alors c'est ce qui nous montre aussi qu'elle pouvait faire autre chose.
Pendant 6 ans, elle est sur les scènes parisiennes, hein, Bataclan entre autres.
Et pour gagner sa vie. Elle a gagné, lorsqu'elle a quitté Willy, elle a gagné sa vie pendant 6 ans sur les scènes de théâtre. Mais aussitôt, elle écrivait son expérience, puisqu'on a l'envers du music hall et la vagabonde qui sont fondées sur cette expérience. Colette a toujours joué sur plusieurs tableaux et ce sont ses expériences dans la vie qui ont alimenté son écriture.
Vous restez avec nous, Antoine Compagnon, pour la deuxième heure du Grand Atelier et le fantôme de Colette. Je remercie Geneviève Brisac et Chantal Thomas, que l'on retrouve demain chez Augustin Trapenard pour évoquer Journal de nage, paru au Seuil. Merci beaucoup, mesdames.
On m'a toujours reproché de manquer de sujet. Ce n'est pas à mon âge que je vais trouver, au gré de mon désir, des sujets romanesques. Alors j'attends.
C'est la suite de l'atelier fantôme de Colette, l'auteur des Claudine, de La naissance du jour, de Mitsou, du blé en herbe, de La femme cachée, de La chatte, celle qui fut aussi, nous le disions, chroniqueuse, reporter, mime, au music hall ou responsable de salon de beauté, une star de la littérature du XXe siècle, morte à 81 ans. En 1954. Nous sommes en direct et en public de la Villette à Paris où se tient le festival Mot pour Mot. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes d'ailleurs un certain nombre à être ici en face de nous. Dernier jour de ce salon du livre printanier et pour se souvenir de la vie et de l'œuvre de Colette, nous accompagne toujours Antoine Compagnon, académicien, l'auteur entre autres de Un été avec Colette qui vient de sortir, le livre né de la série estivale de France Inter en 2021, c'était l'été dernier, et va nous rejoindre dans un court instant l'écrivaine et psychanalyste Julia Kristeva.